pas, j'étais en convalescence, mais c'est Benjamin qui a partagé aussi sur ce thème-là. Et en fait, vous savez que la famille, c'est vraiment une des quatre valeurs qu'on a dans notre Église, avec l'honneur, avec le courage, avec l'authenticité et la famille. Alors la famille, on n'en a pas tous la même expérience. Ça peut être quelque chose qui est positif pour certains, et puis ça peut être quelque chose de douloureux. La famille, on en parlait encore cette semaine, c'est le lieu où on va être parfois le plus blessé, parce que c'est là où on est 100% nous-mêmes, et je pense que ceux de notre famille, c'est ceux qui nous connaissent le mieux, sous les bons jours et puis pas toujours sous le meilleur jour, on est d'accord. Et puis, mais en même temps, c'est là que Dieu nous a voulu, c'est là que Dieu nous a placés. Et puis l'Église, il veut aussi qu'on vive l'Église et les relations les uns avec les autres comme une famille. Et ça, c'est un mystère et ça nous demande de l'humilité, ça nous demande de nous remettre en question, ça nous demande d'exercer le pardon, l'amour, la patience, tous les fruits de l'Esprit. Et, mais c'est le plan de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Yes. Et puis la famille... C'est la nature de Dieu. Vous savez qu'on a un Dieu qui est incroyable, c'est un mystère, on parle de la Trinité. Dieu trois en un, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit. Et en fait, la nature même de Dieu est une famille, c'est une communauté de personnes qui sont en relation les uns avec les autres, qui s'honorent, qui se montrent de l'amour, qui se servent les uns des autres. Et c'est un mystère, la Bible dit que c'est un mystère, mais c'est en même temps de là qu'on vient et c'est vers là qu'on regarde pour savoir comment vivre les uns avec les autres. Et puis... Dieu, c'est, vous savez, Dieu, il se révèle dans l'Ancien Testament. On voit souvent que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en ça, c'est le Dieu des générations. Dieu s'est révélé à son peuple à travers des familles. Et il y a eu un héritage qui a été transmis de génération en génération. Et ça continue ainsi. Et la foi, toute la dimension de la foi... Avant, là, on est rassemblés voilà, dans un bâtiment, mais d'abord, ça commence par la famille. Et c'est hyper important, et parfois, on oublie ça. On peut vivre notre foi, on a notre culte personnel avec le Seigneur, et ça, c'est un des... Si je prends l'image du tabouret, c'est un des pieds du tabouret. Notre culte personnel, notre relation personnelle avec le Seigneur, tous les jours. Et puis, on a le culte le dimanche matin où on se réunit. Ça, c'est le culte corporatif, le culte collectif. Et ça, c'est un autre pilier et c'est hyper important. Et puis, un autre pilier, c'est le culte familial dans nos foyers. Le Seigneur nous a placés dans des foyers et il nous appelle à vivre notre foi aussi dans cette dimension-là. Et il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que quand il s'est révélé, toutes les familles seront, il a dit à Abraham qu'il serait une source de bénédiction pour les nations. Et en fait, c'est cette promesse-là qui a été faite à Abraham et à sa famille, ça sera une bénédiction pour toutes les nations. Et nous, on est les héritiers de cette promesse. Et vous savez, on est appelés à être des pères et des mères dans nos foyers, dans l'Église et aussi à l'extérieur, là où le Seigneur nous a placés. Dans les différentes relations qu'on est amené à avoir, on est appelé à être des pères et des mères et à être réconciliés pour régner ensemble, pour accomplir le mandat de Genèse 1 que Dieu a confié à l'homme et la femme ensemble. Ça, on en a parlé il y a plusieurs dimanches. Mais pour être des pères et des mères, il faut d'abord être des fils et des filles et être réconciliés avec nous-mêmes et recevoir notre identité en Christ. Et ça, ça va être, c'était le sujet d'Hébraise la semaine dernière sur le cœur d'orphelin, le cœur de fils. Et puis ça va être un peu chaque année à la conférence Cœur du Père, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Et c'est tellement important, on l'a chanté encore ce matin, sur cette révélation de qu'on est enfant de Dieu et on a besoin de vivre ça, pas juste une fois dans notre vie, mais tous les jours de le cultiver. On aime bien ce verset dans Romains 8, verset 19. « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et quand on devient fils et fille de Dieu, on est héritier, on devient enfant de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça, c'est Romains 8, verset 16-17. Et donc, on est frères et sœurs ensemble. Et par Jésus, en fait, il y a une nouvelle famille qui est créée. Famille spirituelle, c'est l'Église. Et vous savez, souvent, on peut vivre l'Église un petit peu, on est chacun dans notre coin, puis on se rassemble une fois par semaine, puis après, on repart chacun dans notre coin. Mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Et il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu un résumé qui a été fait, je vous le conseille, on pourra le faire passer. Un livre de Guy Zeller qui s'appelle « Une vision pour la famille ». Et dans l'introduction de ce livre, il parle de l'histoire de Zachée, qui est monté sur un sycomore pour voir passer Jésus. Et Jésus lui a dit, il a interpellé, lui a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je veux venir chez toi. Et nos églises, souvent, elles peuvent être un peu comme ce sycomore, c'est-à-dire on y monte une fois par semaine pour voir Jésus, pour vivre des temps de louange, pour prier, voir quelques frères et sœurs, puis après on rentre chez nous et puis on attend de remonter sur le sycomore la semaine d'après. Alors que Dieu, il veut que nos maisons, déjà nos cœurs, nous on est le temple du Saint-Esprit, mais aussi dans nos maisons, on construise ces temples. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et vous savez, il y a une histoire, quand David a voulu ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et construire le temple, vous savez que l'Arche de l'Alliance, c'était quelque chose de sacré, et tellement sacré que si on touchait, on pouvait mourir, parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était à l'intérieur. Et du coup, pour transporter l'Arche de l'Alliance, il fallait prendre des précautions. Et il y a un homme qui a voulu la retenir alors qu'elle tombait, et il est mort sur le coup. Et du coup, David a eu peur. Et à ce moment-là, il y a un homme qui s'appelait Obed-Edom, qui a accepté d'accueillir l'Arche de l'Éternel chez lui pendant 3 mois. Et il y a écrit dans 2 Samuel 6, « L'Arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. » Donc il y a vraiment une bénédiction qui vient à la fois sur lui, mais sur toute sa maison. Et c'est cette bénédiction-là dans laquelle on a envie de grandir dans l'Église. Et je crois vraiment qu'il y a une révélation dans laquelle le Seigneur veut nous conduire plus profondément, à la fois, et on va en parler, à la fois en tant qu'Église sur le fait de vivre l'Église comme une famille, mais aussi pour toutes les familles qu'on représente. Parce que quel que soit notre statut, j'allais dire marital, où on en est dans la vie, on a tous une famille. On vient tous d'une famille où on a tous une famille. On a tous eu des parents, même s'ils sont plus là. Et en fait, on a tous un héritage qu'on a reçu et à transmettre. Et c'est important de pas se dire « Ah bah ça, ça me concerne pas parce que moi, peut-être, j'ai plus d'enfants à charge ou j'ai pas d'enfants ou je suis plus en relation avec mes frères et sœurs, etc. » Ça peut être douloureux, mais on a tous une famille. On va parler, je vais accueillir Fabrice à parler dans un instant, parce que il y a vraiment des choses qu'il a reçues et qu'il va vous partager sur ce thème-là dans la famille. Et puis Benjamin aussi. Et je suis vraiment honorée, Fabrice et Benjamin. Bon, tu peux peut-être venir, Fabrice, que tu vas prendre la suite après. Mais c'est vraiment des personnes que j'ai envie d'honorer ce matin. J'apprends à les connaître. On se connaît de mieux en mieux. Il y a quelques années, on se connaissait peu. Et j'ai envie de dire, ils ont des points communs, c'est qu'ils ont tous les deux un cœur humble. Et ce matin, on a parlé de l'humilité, que le Seigneur nous appelait à être humbles. Et ce sont des personnes qui sont d'une grande humilité et ce sont des personnes consacrées. Vous imaginez pas tout ce qu'ils font, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais c'est des gens qui ont une générosité qui parfois est visible, mais souvent on ne la voit pas. Et moi j'apprends, je suis tellement rendue humble en fait à leur contact, de voir tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites, qui vous êtes. Et voilà, je veux vraiment vous honorer et vous dire merci. C'est un honneur d'apprendre à vous connaître, c'est un honneur d'œuvrer avec vous. Et voilà, je te laisse la suite, Fabrice, dans ce que tu vas nous partager.
Merci beaucoup, Emmanuel. En fait, il y avait un plan. On a plein de petites feuilles. Sauf que je sens que le Saint-Esprit me demande de faire un petit peu autre chose. Alors, excusez-moi, mais on va faire un peu différemment. Je veux culpabiliser personne. Entendez bien. Je veux juste vous faire prendre conscience d'une réalité dont j'ai fait l'expérience cet été. Comme l'a dit Emmanuel, avec Benjamin et bon nombre d'autres personnes, on fait partie, on sert la jeunesse dans l'église, à l'église Connect. Et chaque vendredi, quand on se retrouve une fois sur deux, même le dimanche, on a des personnes qui viennent nous voir. Merci, merci de ce que vous faites pour mes enfants, pour nos enfants. Merci, merci. Alors on accueille vos mots, ça nous encourage. Et en fait, ce matin, j'ai envie de te dire, et toi, merci pour l'encouragement. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les enfants? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Souvenez-vous, je ne culpabilise personne. Pourquoi je pose cette question? Parce que cet été, on était en vacances, dans un magnifique camping, au Chambon-sur-Lignon, là où le temps s'arrête un peu. J'étais sur la terrasse. Et le Saint-Esprit vient me voir et me dit « Combien d'heures passes-tu avec tes enfants, Fabrice ? Combien d'heures passes-tu avec eux ?» Je dis « Bah Seigneur, regarde, le mercredi après-midi, je ne travaille pas, je suis avec eux. Le matin, je les vois au petit déjeuner, donc je suis avec eux. Le soir, quand je rentre du travail, je leur fais un bisou avant qu'ils se couchent, donc je suis avec eux. Et puis le dimanche, je suis avec eux. » Il me dit non. Combien d'heures passes-tu? Je dis, t'insistes un peu quand même. Et donc je fais la liste des temps que je passe avec chacun de mes enfants. Et en fait, la réponse, sur la feuille, j'ai marqué moins de 24 heures. Sauf que la vraie réponse, sur le nombre d'heures que je passe avec mes enfants sur une semaine, c'était 12 heures. Je passe 12 heures avec mes enfants. Je travaille 38 heures, donc je passe 3 fois plus de temps au boulot. Je dors, admettez, 6 heures par nuit, fois 7, 42. Je passe plus de temps à dormir qu'à être avec mes enfants. Et vous ? La deuxième question, c'était, est-ce que ces temps sont des temps de qualité? Oui, on mange, c'est bien, on est ensemble, c'est bien, mais est-ce que c'est des temps de qualité? Je crois pas. En tout cas, pas de la qualité que Dieu voulait et veut pour mes enfants. Et sa troisième question, et c'est celle qui m'a fait le plus mal, les deux m'ont mis déjà une belle claque, hein. J'ai eu un aller-retour sympa, je pensais qu'on allait s'arrêter là. Et quand Dieu a un plan, il va jusqu'au bout de son plan. Et il me dit, pendant les temps que tu passes avec eux, est-ce que tu leur parles de moi? Ben, je travaille, alors j'ai pas trop le temps de parler de toi à mes enfants. On essaye de jouer, on essaye de s'amuser, d'avoir des temps fun avec eux. Excuse-moi, mais tu passes un peu en second plan quand je suis avec mes enfants, quoi. Et là, en fait, ça m'a fait mal parce qu'en fait, j'ai pris conscience que tous les efforts que j'avais faits en tant que parent, on a inscrit nos enfants dans une école chrétienne, on les amène le dimanche à l'église, et bien en fait, le Seigneur me disait ça suffit pas. En fait, ça, c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est ce que tu as choisi et je t'y encourage et c'est bien, continue, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ce que je t'ai demandé, c'est de fonder une famille. Je t'ai donné des enfants. Occupe-toi des enfants que je t'ai donnés. En préparant cette matinée, le Seigneur m'a dit, utilise une image pour qu'ils comprennent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avec ma femme Océane, nous avons 5 enfants. Et imaginez que, vu que je veux emmener ma femme au resto, on a besoin de faire garder nos 5 enfants et on vient vous voir, je viens vous voir personnellement et je vous dis, tiens, je te dépose mes enfants, je reviens les chercher ce soir. Je passe un temps merveilleux avec ma femme au resto, c'est formidable. Et quand je reviens chercher mes enfants, vous me dites, tiens, il y en a 2 sur les 5, C'est déjà pas mal. Super, je t'en ai laissé 5. Si tu m'en rends que 2. Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Ah ben... ils ont joué. Ils ont passé du temps. C'était bien. Ah, ils ont rigolé. Hein. Mais il n'y en a que 2 qui reviennent à toi ce soir. Ouais, c'était pas ça la consigne, quoi. Imaginez juste si en tant que parent, vous avez des enfants. Je crois qu'un jour, on aura des comptes à rendre à Dieu en tant que parent. Comment on a accompagné nos enfants, les enfants qu'il nous a donnés? Vous n'avez pas d'enfants, vous avez des neveux, des nièces, vous avez des voisins. Il y a des enfants autour de vous, j'en suis convaincu. Comment on les accompagne, ces enfants? Il y a des enfants à l'église, comment on les accompagne? Est-ce qu'on les regarde et vas-y, amuse-toi, ou est-ce qu'on les fait grandir dans la foi? Moi, chaque vendredi, quand on vient ici, c'est ce que je veux pour chacun des enfants qui vient au groupe Life ou qui vient dans le groupe étudiant. Je veux que le jour où je rencontre Papa Dieu, ils me disent « Ok, tu as fait ce que je voulais que tu fasses avec eux. » Après, eux sont responsables. Je ne suis pas responsable de chacun des choix des enfants, mais eux sont responsables de leurs choix. Et moi, j'ai fait ma part. Dieu nous a donné l'autorité dans la famille en tant qu'homme. Alors papa, messieurs, c'est à vous que je m'adresse un court instant. Si nous avons l'autorité dans notre famille, nous avons la responsabilité d'élever et d'éduquer nos enfants du mieux que nous puissions le faire. Être responsable d'une famille, ça ne veut pas dire tout faire tout seul. Pour certains, nous sommes accompagnés dans la vie par une épouse. Pour d'autres, nous avons des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes. Sachons nous entourer de personnes qui sauront influencer nos enfants selon la volonté de Dieu. Un chef de famille, c'est comme un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il n'est pas obligé de tout faire tout seul. Il sait s'entourer de collaborateurs. Il sait recruter les personnes qui sauront peut-être être plus compétents que lui-même dans certains domaines. Mais le recrutement qu'il va faire, il sera là pour élever l'enfant. Alors frères et sœurs, dans l'Église, c'est là que vous avez votre rôle à jouer. C'est là que vous avez votre part. Venez voir les responsables de l'Église, venez voir les responsables de jeunes, et dites, je veux jouer ma part. Je veux intervenir moi aussi. J'ai des enfants, je n'ai peut-être pas d'enfants, mais je veux jouer ma part. Par contre, et ça je l'ai compris ce matin, quand vous allez venir nous voir, parce que je sais que vous allez venir nous voir, pour nous dire, ok, ça me parle, ça m'a parlé, ou ça m'interpelle et je veux en savoir plus, et je veux jouer mon rôle moi aussi. Et c'est chouette, on va vous accueillir. Sauf que nous, en vous accueillant, on n'est pas encore prêt totalement à accueillir qui vous êtes. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Et votre arrivée, c'est comme une nouvelle naissance dans une famille. Vous savez, quand il y a ce petit être qui arrive là, qui chamboule tout ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Vous aviez vos repères. Vous étiez 2, il y a ce premier né qui arrive. Vous êtes 4, il y a le 5e qui arrive. Vous êtes 7, il y a peut-être un 8e qui arrivera. Mais quand il y a un élément nouveau qui arrive et qui intègre une équipe, est-ce que l'équipe est prête à accueillir correctement, de la façon la mieux possible, cette arrivée? On n'est pas parfait, mais non, on ne sait pas faire. Et on a besoin de passer du temps avec vous. On a besoin de se connaître. On a besoin de comprendre qui tu es. Pour t'accueillir tel que tu es. Et en fait, ce matin, j'ai compris ça. J'ai compris que, oui, on ouvre grand la porte. Puis si t'arrives avec tes gros souliers, ton gros cheval, et que t'arrives, tout de suite, Je suis là pour sauver la patrie. En fait, nous, ça va faire peur et on ne saura pas faire. Et on va dire, oh non, 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 on ne veut pas ça. Donc viens avec tes gros sabots, avec ton gros cheval. Et viens me voir et dire, moi, je veux être avec vous. Et je vais dire, ok, assieds-toi à côté de moi, on boit un café ou une bière. Et on va faire connaissance et on va avancer ensemble. Parce que ce que tu as apporté, mon frère, ma sœur, c'est ce qui nous manque. Mais si c'est fait avec force, je... Waouh, non, ça va me faire peur et on ne saura pas faire. On sera maladroit. Donc, ouais. Mais notre maladresse ne doit pas te freiner. Viens tel que tu es. Viens nous voir. Et on va faire les choses ensemble. Et pour finir, quand Dieu m'a posé ces trois questions, donc souvenez-vous, hein, combien d'heures tu passes avec tes enfants? Est-ce que c'est des temps de qualité? Est-ce que tu leur parles de moi? Le constat était un peu trop brutal et je dis ok, en fait le constat il est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aide-moi, dis-moi ce que toi tu veux faire. Sa réponse a été radicale et instantanée. Il m'a dit, quand tu es à la maison, la journée soit disponible pour ta femme, soit disponible pour tes enfants. On a mis une chose assez vite fait en place, le portable de côté, quand un enfant me parle, je pose le portable et j'écoute. Je ne vous dis pas que j'y arrive à tous les coups, mais je sais que j'ai cette ligne de conduite. Le deuxième... je vois que ça parle, le portable à la maison. Merci Seigneur, il n'y a pas qu'à moi. Le deuxième point, c'est prends un jour de repos en famille, le Shabbat. Prends le dimanche avec ta famille. Moi, le dimanche, l'après-midi, dès qu'il fait beau, j'allais au jardin. Non, reste à la maison. Passe du temps avec tes enfants, avec ta femme, le dimanche. Et, chose un peu surprenante, il m'a dit, un dimanche par semaine, tu vas pas à l'église. Tu vas en famille. Un dimanche par mois, pardon. J'ai dit par semaine ? Oh, merci, il y en a qui suivent. Amen. Un dimanche par mois, tu vas pas à l'église, tu vas en famille. Quand Dieu m'a dit ça, la semaine d'après, on était au petit déjeuner, j'ai ma petite Ilona, elle se met à table. Déjà, elle bouscule sa chaise et tout. Je dis, ouf, toi, t'as bien dormi. Et puis Ilona, ça déborde, c'est ou tout ou rien, quoi. Elle pousse sa chaise, je lui dis, ça va pas? Elle me dit, je vous le dis comme elle dit, j'en ai ras-le-bol d'aller à l'église, on passe jamais du temps en famille, moi je veux faire l'église à la maison. Amen. Eh ben, Seigneur, tu as parlé, visiblement tu as parlé aussi à ma fille, elle l'a bien entendu, eh ben on va faire un dimanche par mois à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps du dimanche à la maison? Eh ben, on a fait un truc tout bête, mais parce que le Seigneur nous a demandé de faire ça. Il nous a dit, vous êtes une famille simple, on va prendre l'alphabet. Vous appelez la famille Bert, vous allez faire l'alphabet. Pas très compliqué. Une semaine, une lettre. Chaque dimanche que vous passez en famille, vous prenez la lettre qui correspond à la semaine. Vous trouvez un verset qui commence par cette lettre. Des louanges qui commencent par sept lettres et des prénoms qui commencent par sept lettres. Vous chantez ces louanges. Vous parlez de ce verset et vous priez pour les gens. Je peux vous garantir, mes enfants, aujourd'hui, la première fois que ça s'est fait, c'était formidable. On commence, 3 minutes après, on avait mis des petites bougies histoire de te faire un truc un peu sympa. On met des bougies, Élise monte sur une chaise, fait tomber les bougies, brûle Ilona. Ilona se met à hurler. Quand ça tombe sur elle, quand ça tombe sur quelqu'un, c'est sur Ilona. Elle se met à hurler. Waouh, tu es brûlé. Personne réagit. Je regarde ma femme. Mais réagis, bon sang. Ah, je prends ma fille, je la monte dans la salle de bain. On lave tout ça. Je dis, Seigneur, on est en train de se faire voler le moment. On est redescendu. On s'est remis autour. On a éteint les bougies. On dit, on reprend là où on en était. Faites-vous violence, les amis. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose en famille, faites-vous violence. Les enfants ne seront pas réceptifs tout de suite. L'ennemi, lui, va infiltrer la famille pour semer le trouble et la discorde. faites-vous violence. Je peux vous garantir, aujourd'hui, ce sont les enfants qui nous réclament « Hey, on n'a pas fait l'alphabet aujourd'hui ?» Ok, on va le faire. Je finirai avec ça, et Benjamin, tu peux venir avec nous, avec moi. Ne soyez culpabilisés en rien, frères et sœurs. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais par contre, on a notre responsabilité à jouer en tant que fils, fille, frère et sœur.
Merci Fabrice. Alors, forcément, c'est maintenant que ça ne fonctionne plus. Ça va, on est en famille. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin. Or, moi, c'est vrai que le peu de fois où je partage, j'aime faire participer tout le monde. Alors, tous ceux qui me connaissent, on va aider ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Benjamin. Quel est mon statut marital? Je suis... Et donc, j'ai 1, 2, 3, 12 enfants. Combien j'ai d'enfants? Eh bien, je vous dirai, ça dépend. Et moi, si je viens de parler de la famille, c'est parce que, alors, c'est sûr, on regarde Emmanuel, ça fait rêver, ok? Ça fait rêver, elle est responsable, elle a 4 filles, on dirait des poupées, c'est merveilleux. On regarde les Bères, moi les Bères, j'ai le petit privilège d'avoir été dans les coulisses et de voir l'histoire se monter. Je vous assure, c'est magnifique. Demandez leur témoignage. Pour les solos, je vous promets, ça va vous encourager. C'est vrai que c'est beau, mais on n'est pas tous concernés. Alors, il y a des Benjamins dans l'église. Et pourquoi moi, je parle de la famille? Parce que la famille, c'est important. Parce que je viens d'une famille. Je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas été dans une famille. Il se trouve que je suis la dernière. Le dernier, c'est celui qui a tous les regards sur lui quand même. C'est un peu « fais ci, fais ça, fais pas ça, puis de toute façon, attention. » Mais tout ça, ça conduit à quoi? Ça conduit à être enraciné. Parce qu'on ne va pas se faire de secret s'il n'y a pas de cadre. Ça part dans tous les sens. Moi, je veux parler de la famille comme ce lieu où on est ancré, où on peut, comme disait Emmanuel, être soi et avancer. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus mes parents, mais ça ne me dédouane pas de fonctionner comme le membre d'une famille. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un héritage. Un héritage certain. Et j'ai la grâce que ce soit un héritage profond dans la foi. Là encore, certains d'entre nous vont me dire « Mais moi, j'ai pas ça, Benjamin. Moi, je comprends que mes parents, l'Église, ils savent l'écrire, c'est tout. On n'a pas de définition de la foi. Ben moi, je suis là pour t'aider. Et te dire oui, comme a dit Emmanuel, Dieu, c'est le Dieu des générations. Tu es peut-être le Abraham de ta famille. Il faut se le dire. S'il y a eu un héritage, c'est qu'il y a eu des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens qui ont investi. Et aujourd'hui, ben, ça a bien commencé par quelqu'un. Alors je veux t'encourager aujourd'hui. C'est peut-être par toi que ça commence. Alors, tu vas me dire, mais moi je suis tout là, hein. Je suis au maximum là. Moi je t'invite à regarder Genèse et je t'invite à regarder les histoires. Ils n'étaient pas vaillants. Au départ, ils n'étaient pas vaillants, on n'aurait même pas mis des pots sur eux. Donc je pense que le casting, tu vas me dire, je suis un peu plus dans le casting. Donc moi, ce matin, je viens vous apporter un petit point de vue sur la famille. Donc c'est le Dieu des générations. C'est le Dieu, donc on nous connaît le casting. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu de tout ce qu'il a décidé de faire dans la parole de Dieu, donc le testament, le manuel, il a fait un casting. On dirait que j'étais le papa et vous seriez les enfants. C'est donc que ce sujet, on ne peut pas s'en écarter à aucun moment. Dieu, celui qui a tout créé, il s'est dit, pour qu'ils comprennent, on va jouer à la famille. Donc on ne peut pas s'en écarter, jamais. Donc on est des frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est qu'un frère et une sœur? Moi j'ai une sœur dans la salle aujourd'hui. Des frères et sœurs, c'est des gens avec qui on a des choses en commun, des choses qui s'opposent, mais c'est surtout des gens qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous portent, qui gardent vos secrets. Les parents, bouchez vos oreilles, parce que bien sûr, vos enfants, ils n'ont pas du tout de secret envers vous. Aucun. Le frère, la sœur, ça peut être celui qui, un vrai lieu où je dépose mes lieux de conflit, mes lieux de transition. Le frère, la sœur, c'est le soutien absolu. Et là, je parle dans le corps de Christ. Parce que dans Marc 10, encore une fois, c'est pas moi qui l'a dit, comme les petits, c'est Dieu. Marc 10, il dit que celui qui s'engage et qui quitte tout pour Dieu, maison, père, mère, frère, sœur, Dieu lui redonne dans le siècle présent, donc là. Et si c'est pas arrivé, j'ai envie de dire, ouvrir votre oreille prophétique, il dit bien, si t'es là, si tu as tout quitté pour suivre Dieu, et si t'es là ce matin, c'est peut-être parce que t'as accepté le Seigneur, ou que tu es sur le point de l'accepter, et que tu vas te séparer de certaines choses. Marc 10, 29, il dit quoi ? Je te redonne dans le siècle présent, dans le même moment. Fabrice a parlé de recrutement. Commence à ouvrir ton cœur. Et je redonne quoi ? Des frères, des sœurs, des pères, des mères, des foyers. Maintenant, moi je veux t'inviter à ouvrir ton cœur. Le frère, la sœur que tu n'as pas, ou qui ne fonctionne pas comme tu aimerais, parce qu'il faut se le dire, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous une fratrie qui s'entend super bien, ben aujourd'hui c'est l'invitation de Dieu. Dis à Dieu dans ton cœur, il n'y a personne qui le voit, qui l'entend, Seigneur, moi ouais, j'aimerais avoir un autre père, une autre mère, une autre sœur, un autre frère. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'on rejette ses parents, c'est que peut-être, de par l'histoire familiale, on s'entend pas, on s'écoute pas, on n'a pas la capacité. Et Dieu dit bien des pères, des mères. C'est qu'on est dans des capacités à recevoir ou à écouter des choses comme personne d'autre. Donc ce matin, je t'invite. C'est Dieu qui t'invite. Tu me suis, moi je te dois. Moi je fais pas crédit, moi je suis le Dieu de l'abondance. Je viens, je te donne des frères, des sœurs, des mères, des pères. Donc je t'invite vraiment à prendre ce temps et à être honnête avec toi. Fais cette offrande d'honnêteté à Dieu. Dis-moi, j'en ai marre en fait. Et si j'ai le choix, et tu as le choix, laisse Dieu t'amener tes frères et tes sœurs. Les frères et sœurs, ça sert à quoi ? Ben, Marie, alors oui, elle a été appelée à quelque chose d'assez inédit, hein ? Mais malgré le fait que son appel soit inédit, elle est allée faire quoi ? Elle est allée voir Élisabeth, ensemble. David, son appel, alors lui, dans sa fratrie, on a bien compris que ce n'était pas le préféré. Qu'est-ce qu'il fait ? Dieu, qu'est-ce qu'il lui donne ? Jonathan. On marche ensemble, à deux, c'est mieux. On se tient au courant, on se tient responsable et on se soutient. Alors Dieu, il a de l'humour. Parce que quand il parle de famille, donc il dit famille, il dit à un moment qu'il y a des enfants. En préparant ce moment, je disais, Seigneur, franchement, la maternité, tu la places à des endroits peu probables. Marie. Alors, on n'a pas dit qu'on encourageait quoi que ce soit, attention. Je tiens à le dire. C'est arrivé. Élisabeth. La grossesse d'Élisabeth, vous savez comment elle s'appelle ? C'est pas beau, hein ? Une grossesse gériatrique. Bon, ça marche aussi. Dans Isaïe 54, Dieu, il exhorte et il dit « Réjouis-toi, stérile. » Il est en train de parler maternité, stérile, maternité, bref. Toi qui n'enfantes plus. Stérile, c'est pas forcément le fait de... Stérile, de pas de jamais avoir d'enfant. C'est toi qui, au moment où je t'adresse la parole, n'as pas encore d'enfant. Toi qui n'enfantes plus. Qui n'enfantes plus, donc qui est de l'autre côté. Réjouis-toi. Parce que les enfants seront plus nombreux. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut raccrocher le tablier. Je m'adresse à nos anciens aujourd'hui ici. Eh ben non, c'est pas la retraite, c'est jamais la retraite. Dieu nous invite, mesdames, à la maternité. Tout à l'heure, je vous ai demandé combien d'enfants j'ai. Alors légalement, zéro. Sinon, je m'en souviendrai, parce que apparemment, je serais quand même au premier plan. Donc j'en ai zéro. Mais du point de vue de Dieu, ben, j'en ai plus que vous tous réunis, et il se trouve qu'on en a en commun. Mes enfants, vos enfants, on les échange. Dans notre langue d'origine, au Tchad, quand on parle des enfants, de la famille, on dit les nôtres, les enfants qu'on a en commun. Parce qu'on part du principe que dans la famille, alors oui, il y a une personne qui a accouché, forcément, mais ton rôle, tu n'es pas exemple, tu vas apporter dans l'éducation de cet enfant. Donc souvent, on dit tes enfants. C'est vrai, quand on parle, les gens, souvent, ils se disent, mais c'est les vôtres, vous avez combien d'enfants? Moi, c'est pas compliqué, j'en ai pas. Mais vous suivez tous. Oui, mais j'en ai pas. Moi, je veux vous exhorter aujourd'hui à vous regarder les uns les autres et à se dire, à dépasser ce fameux statut. Ce fameux statut marital. Famille monoparentale, bah, t'as un frère ou une sœur et t'as des frères et t'as des sœurs qui sont là pour tes enfants. Et ceux qui sont recrutés, comme disait Fabrice, on vient pas avec un esprit de « pousse-toi là que je m'y mette, je suis meilleur que toi. Attends, bouge pas, je vais te montrer ce qu'il faut faire. » Non, jamais. Toi qui ça fait tellement mal d'avoir subi les conséquences de la vie, dans ta famille, Dieu est débiteur de personne, je le redis. Il a un père pour tes enfants. Il a une mère pour tes enfants. Et je vais faire une petite parenthèse pour les solos. Dans Isaïe 54, il parle de la stérile, etc., de se réjouir. Et tout de suite après, il est question de quoi ? Élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire que ça va prendre dans ta maison, dans ta vie, dans ta logistique de vie, ça va prendre de l'espace pour les enfants qui sont les tiens et ceux que Dieu va t'amener. Dans la construction, dans le choix du conjoint, alors pour ceux qui font des listes, j'aimerais vous inviter à un truc. En haut, la première chose, regardez si c'est un père ou c'est une mère. Parce que s'il y a quelqu'un qui est là parce que vous êtes joli, parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes fort, eh bien, il redouble. Je ne veux pas dire que ce n'est pas la bonne personne, mais positionnez-vous. Parce qu'on est à Connect ici et Dieu nous parle ici aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de séparation entre le groupe des solos, les groupes de jeunes et tous les groupes confondus. J'insiste. Dieu nous parle de la famille. Les solos construisons de manière, comme dit Fabrice, à rendre fier notre Père. De quel esprit est-elle animée ? Est-ce que c'est une mère ? Si ce n'est pas le cas, commence à prier. Est-ce que c'est un père ? Si ce n'est pas le cas, commence à prier. Si vous marchez ensemble, si c'est pour aller à Bora Bora tout le temps, à Florence, tout ce qu'on veut, c'est bien. Mais à un moment dans l'histoire, il va falloir mettre un temps, on dit qu'est-ce qu'on fait de notre vie, de notre maison ? Et enfin, pour finir, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel est venu nous parler de la famille, il n'y a pas si longtemps. Et elle a fait une petite phrase et qui, moi, dans mon oreille prophétique, vous savez comment ça se passe, parce qu'on dit toujours ils sont perchés. Il y a quand même deux, trois trucs. Oui, on est perchés, certes, mais elle a fait un petit appel. Pourtant, je ne suis pas concernée, mais ça m'a fait bouger sur ma chaise. Elle a appelé des enfants. Je me suis dit, ils sont tous confiants. Emmanuel, elle prie un moment et elle dit « Oui, Seigneur, j'appelle des naissances. » Je me suis dit « Ils sont tous calmes. » Moi, ça me fait un peu paniquer parce que c'est sérieux. Enfin. Et le Saint-Esprit me dit « Mais si tu l'as retenu, c'est pas pour rien. » Eh bien, c'était pour aujourd'hui. Parce que je sais que cette parole, elle est de Dieu, elle est prophétique, non pas parce que dans mon oreille, elle a sonné plus fort, mais parce que par tout ce qu'on vient de vous partager dans ces trois parties, Dieu veut faire de nous des gens responsables. Des pères, des mères, des frères, des sœurs, des gens prêts à aller aider, prêts à se dépouiller, à servir comme si c'était les leurs, parce que c'est les nôtres au final. C'est les nôtres, c'est pas compliqué. Dieu, il nous met au défi aujourd'hui, parce que cette parole, elle va s'accomplir. Il va y avoir des naissances. Il va y avoir des naissances, et pour qu'il y ait des naissances, il va y avoir des mariages, mais pour qu'il y ait des mariages, par pitié. Faisons les choses bien, selon le cœur de Dieu. Parce que la réalité, c'est aussi que si je suis autant sollicité au niveau des enfants, c'est parce que la maternité, elle n'est pas forcément glamour. Et je vais vous inviter à un moment, parce qu'on est en famille, à un moment de vérité. Il y a des enfants, ils sont nés dans des familles chrétiennes, où étaient peut-être là, où tu t'es dit finalement j'ai fait des enfants mais en fait c'est parce que je voulais me conformer à un certain standard et aujourd'hui j'ai du mal, c'est compliqué. Parce que la maternité des fois elle est compliquée quand elle n'arrive pas au bon moment, pas au bon timing. Si la maternité elle se fait parce qu'il y a des injonctions, c'est compliqué. Mais pour de vrai on ne peut pas vraiment le dire. Alors c'est pas toi qui le dis ma très chère sœur, c'est moi. Mais ouvre ton cœur devant Dieu. Et je t'invite à pas rester seule avec ça, cette accusation de l'ennemi qui te dit, bah t'as vu, tu les voulais, tu les as, tu te débrouilles. C'est un mensonge que je veux briser aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment une famille. Cette parentalité, on l'a appelée à la vie, Dieu nous prend au sérieux. On a la grâce d'avoir des jeunes. Je vous prie de croire que quand ils viennent... Bon, pour certains, oui, on les menace de mort vite fait, voilà, rentre, assieds-toi. Mais après, ils sont contents. Ils sont contents. Mais Dieu va nous honorer de naissance. Parce qu'il croit en nous, il croit vraiment que ce qui se passe ici, on va honorer Dieu, parce qu'on honore la présence de Dieu. Et je vais finir par là. Quelle est la différence entre le moment où on enterre quelque chose et où on le sème ? Moi, j'espère pour vous que ce matin, ça a pu vous parler, venir vous amener à des réflexions, des choses pour vous. Mais quand on enterre quelque chose, ben, c'est mort. Quand on sème quelque chose, c'est la même action, mais l'expectative n'est pas la même. On attend la vie. Dieu nous a dit, au départ du film, il nous avait dit, pas l'arbre de la vie et de la mort, la connaissance du bien et du mal. Moi, je l'appelle la vie ou la mort, c'est du binaire, pas celui-là. Mange de l'arbre de la vie, la connaissance de la vie, de la vie, de la vie. J'espère ce matin que ce message à trois voix, c'est pas pour vous, en tout cas pour nous, c'est pas un message qu'il fallait mettre dans le programme de l'année et c'est checklist, c'est enterré, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. J'espère que ça a été une vraie semence. Parce que d'ailleurs, la vie, ça commence par une semence. Merci.